personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Eh bien, bonsoir aux auditrices et aux auditeurs de Principes Actifs. Donc, c'est Amnesty International Évreux pour sa seconde émission du mois de juin, avant la pause estivale, puisque bien sûr, on reprendra après pour le mois de septembre. Bon, on est un tout petit peu en retard sur l'antenne. Excusez-nous, on avait un petit souci technique. Hein, voilà. Donc, c'est arrangé, mais on a perdu 5 minutes. Voilà. Donc, avec moi pour animer l'émission ce soir, il y a Mila.
Bonsoir.
Il y a Françoise.
Bonsoir.
Alors, il y a une personne que vous n'avez encore jamais entendue, mais qui apparemment va faire une petite intervention tout à l'heure, qui s'appelle Minika.
Bonsoir.
Et il y a Ronan derrière la technique, qui a eu des soirs froides à cause du problème technique.
Aussi. Bonsoir, mais c'est résolu.
Voilà. Donc, ce soir, bon, pas mal de sujets comme d'habitude. Hein. On va vous parler bien sûr de la suite de l'action pour la protection des réfugiés, bien évidemment. On va vous parler aussi de ce qui se passe aux États-Unis, toujours sur le même sujet. On va vous parler du Yémen. Moi, je vais vous parler de quelques personnes qui sont intervenues à l'Assemblée Générale d'Amnesty à Grenoble le week-end dernier, puisque j'y étais. Il y a eu quelques témoignages, etc., etc. Donc, surtout, vous gardez l'antenne, vous l'écoutez jusqu'à 20h. Pour commencer l'émission, on va vous donner une info locale. On n'a pas l'habitude de le faire pour commencer, mais bon, c'est important. Dimanche, on fait notre foire au livre sur la place du Faubourg Saint-Léger, en face du, juste à côté du local d'Amnesty, pour ceux qui le connaissent. Le Faubourg Saint-Léger, c'est au carrefour quand vous quittez Évreux pour aller en direction de Cap-Carré et de Rouen.
Oui, ils ont fait un nouveau rond-point. Là.
Voilà. Donc, notre foire au livre, c'est ouvert au public de 9-10h jusqu'à 17h le soir. Donc, venez nous soutenir en achetant les livres, en signant
les pétitions. Vous signerez des pétitions.
Voilà. Et on vous rappelle que le fait d'acheter nos livres, qui sont des livres qu'on nous donne, des contrits, ça nous permet aussi de nous financer, puisqu'on s'autofinance à 100%, c'est une grande part du budget d'Amnesty Évreux. Donc, ne serait-ce qu'en faisant ça, vous soutenez la défense des droits humains à travers le soutien en groupe.
Et,
en
plus, et si vous permettez à Amnesty d'avoir des chercheurs.
Oui, tout à fait.
Et en plus, si je ne me trompe pas, il va faire beau.
Il va faire beau, oui, il va faire
non,
beau.
Non, mais vu que c'est dehors...
Je ne suis pas sûre.
Françoise. si, il fera beau, il n'y a pas de souci. Donc voilà, on vous le rappellera à la fin. Mais dimanche 1er juillet, foire au livre Amnesty Évreux, on vous attend. Donc oui, je vous disais que pour commencer, que j'étais à l'Assemblée Générale d'Amnesty France le week-end dernier à Grenoble. Et juste avant aussi la pause estivale, ça m'a fait penser pour ceux qui partent en vacances, j'espère que vous serez nombreux à partir en vacances. Il y en a un certain nombre qui vont aller sur les pays au bord de la Méditerranée, hein, ce qui est tout à fait normal. Il ne faudra pas oublier, même si bien sûr on ne passe pas ses vacances pour méditer, chaque chose en son temps, il ne faudra pas oublier qu'il y a des gens qui font ça sur des bateaux de fortune, traverser la Méditerranée, pas du tout pour les mêmes raisons que d'aller passer des vacances, et qu'il faut continuer à être solidaire par rapport à ces gens-là. Être solidaire par rapport à ces gens-là, ça veut dire ne pas faire et ne pas suivre les directives qui sont données par les différents États européens à l'heure actuelle. Et que c'est effectivement quelque chose qu'il faut toujours avoir présent à l'esprit et dans ses préoccupations, la défense des réfugiés. Deuxième parenthèse, on a fait une émission spéciale la semaine dernière, le 20, mercredi 20, en direct de la MJC, une émission de près de 2 heures, qui est une première d'une série qui s'appelle Fréquence aux droits humains, en collaboration entre Amnesty et la radio Principes Actifs. Et vous pouvez retrouver le podcast hein, sur le site, il a été mis. Vous allez dans la rubrique Fréquence droits humains et vous trouverez le podcast de notre émission qui était entièrement consacré aux réfugiés avec 2 témoignages particulièrement émouvants de 2 personnes qui sont réfugiées ici à Évreux. Donc n'hésitez pas à les réécouter et à nous faire part de vos commentaires. Donc je vous disais, l'Assemblée Générale d'Amnesty ce week-end, on a eu 4 témoignages importants et émouvants de gens qui se battent pour les droits humains, mais qui se battent pour les droits humains ailleurs qu'en France. Et dans d'autres sections d'Amnesty. Et donc, je vais vous en parler 2. Après, il y a Ronan qui va faire une petite interlude sur un autre sujet. Et après, je vais continuer sur les 2 autres témoignages. Donc, le premier qu'on a eu, c'était...
Parce que t'as pas fait le plus sommaire là, de l'émission.
J'en ai parlé tout à l'heure, rapidement. Mais oui. Bon. Donc on a Idi Lezer qui est la présidente, la directrice d'Amnesty Turquie. On vous en a déjà parlé, hein, parce qu'on a régulièrement fait appel à vous pour faire le soutien au président d'Amnesty Turquie qui lui est toujours en prison, qui s'appelle Taner Kılıç. Et donc la directrice d'Amnesty Turquie était là. Elle-même a fait quelques mois de prison, mais a été libérée. Enfin, elle doit repasser en justice hein, prochainement. Pour l'instant, elle est en liberté sous caution. Et elle a parlé de la situation en Turquie, en précisant bien que toutes les questions de liberté en Turquie, effectivement, se dégradaient à une vitesse grand V, on pourrait dire. Que la répression, effectivement, est constante, mais que c'est une répression un peu pernicieuse, parce que ce n'est pas une répression qui est faite de façon des arrestations visibles dans la rue, enfin, etc. Mais tous les gens qui s'occupent de droits humains, ou tous ceux qui ne sont pas dans la droite ligne, dirons-nous, de ce qui est décidé par le gouvernement Erdogan, ils sont mis sur écoute, ils sont épiés par la police, et puis un jour ou l'autre, effectivement, on les accuse, ils sont arrêtés. Et on les accuse de conspiration contre l'État, de déviation, d'atteinte à la sécurité du pays, ou d'aide aux mouvements terroristes, particulièrement les Kurdes. Donc voilà, et ce qui a été son cas à elle, c'est pour ça qu'elle a fait quelques mois de prison, et c'était toujours le cas du président qui est toujours sous les barreaux. Donc elle disait que c'était effectivement une répression insidieuse, qui ne disait pas son nom, mais qui était très généralisée. Et elle a longuement insisté sur l'importance de la solidarité, en disant que elle-même, quand elle était en prison, elle a appris que beaucoup de sections d'Amnesty se mobilisaient pour elle, et que c'était fondamental, et elle sait que Taner est toujours au courant que beaucoup de militants d'Amnesty se mobilisent aussi pour lui, et que c'est fondamental pour qu'il tienne le coup. Donc voilà. Et elle expliquait aussi que ça n'empêchait la section turque d'Amnesty de se mobiliser difficilement avec les moyens qu'ils ont, mais ils le font quand même. Et en ce moment, ils font un soutien par rapport à ce qui se passe, et Françoise va vous en parler tout à l'heure, des atteintes aux droits des réfugiés aux États-Unis. Ils interviennent effectivement en faisant pression eux-mêmes par rapport au gouvernement et aux autorités américaines. Donc c'est bien pour vous montrer qu'Amnesty, quelles que soient les difficultés des sections, c'est un mouvement mondial et on s'occupe les uns des autres. Alors le deuxième témoignage qu'on a, c'était la directrice d'Amnesty Ukraine, qui s'appelle Oksana Polachuk, qui était là aussi, et qui expliquait que sa situation, enfin que militer pour les droits humains et monter une section d'Amnesty en Ukraine, c'était extrêmement difficile, pour des raisons qui sont un peu les mêmes, mais qui sont aussi un peu différentes de la Turquie. Elle a expliqué dans un premier temps qu'en fait en Ukraine, depuis la disparition de l'Union soviétique, le premier problème qu'ils ont eu, c'est que la population n'avait aucune conscience de ce que ça voulait dire défendre les droits humains, parce qu'en fait ils n'ont jamais été élevés dans cette habitude-là, il y avait une chape de plomb par rapport à ce genre de notion chez eux. Donc il a fallu commencer à expliquer aux gens que chaque individu a des droits et qu'il faut qu'il réclame ses droits, c'était le premier travail. Et qu'ils se heurtaient à ça, effectivement, à toute l'histoire de l'Ukraine et de ce qui s'était passé pendant plus de 50 ans avec l'Union soviétique. Et qu'en fait, les gens se considèrent encore à l'heure actuelle comme étant une espèce de colonie de la Russie. Et que c'est très difficile à changer. Même si maintenant, effectivement, il y a aussi toute une partie de la population ukrainienne et de l'opinion publique qui cherche à se rapprocher de l'Europe. Ce qui est une des raisons pour lesquelles il y a la guerre, comme vous le savez, au Donbass, c'est-à-dire à la frontière entre l'Ukraine et la Russie. Puisque, bien évidemment, la Russie de notre ami M. Poutine accepte difficilement que l'Ukraine veuille rejoindre à terme l'Union européenne. Donc voilà, c'est une des raisons. C'est pas la seule, mais c'est une des raisons. Elle a expliqué quand ils avaient fait tout un travail, malgré tout, à l'Amnesty Ukraine par rapport aux prisons secrètes, entre autres avec les prisons secrètes qui ont lieu dans cette partie de l'Ukraine, le Donbass, qui est toujours plus ou moins en guerre civile, même s'il y a un cessez-le-feu, qui est plus ou moins bien respecté. Et que dans un premier temps, cette dénonciation par un rapport qu'ils avaient publié, Amnesty Ukraine, sur l'existence des prisons secrètes dans cette partie du pays, avait été niée par les autorités. Bien sûr, en disant que ça n'existait pas. Mais qu'après, ils avaient été obligés, suite à l'apparition du rapport, de reconnaître ces autorités que si, ça existait. C'est ce qu'ils ont dit aux gens d'Amnesty là-bas. Ça existait, mais que jamais ils ne l'avoueraient officiellement. Voilà. Ce qui est quand même le comble de l'hypocrisie. Donc elle a insisté sur le fait qu'ils utilisent beaucoup les réseaux sociaux, parce que c'est très difficile de porter l'étiquette Amnesty ouvertement. Elle disait que par exemple, quand ils faisaient des rassemblements dehors, jamais ils n'affichaient le nom d'Amnesty International, sinon ils sont à peu près sûrs d'être arrêtés par la police ou d'être directement menacés par les groupes d'extrême droite qui sont extrêmement virulents là-bas. Donc ils ne l'affichaient jamais en tant que tel et que l'essentiel de leur activité se passait sur les réseaux sociaux. Bon, ça leur a quand même permis de réunir depuis quelques années que la section existe plusieurs milliers de sympathisants sur Facebook et autres, ce qui n'est pas négligeable. Mais elle expliquait qu'ils travaillaient effectivement dans des conditions très difficiles. Par exemple, ils ont des locaux, mais ils donnent des fausses adresses au niveau des autorités par rapport à leurs locaux, parce qu'ils ne veulent pas effectivement que les autorités puissent intervenir directement dans leurs locaux, faire des perquisitions ou des choses comme ça. Donc ils donnent des fausses adresses, et qui sont en fait six permanents à l'heure actuelle, dont elle. Il y a un chercheur, il y a quelqu'un qui est chargé de la gestion des réseaux sociaux et de la promotion de leurs activités. Mais que tout ça se fait dans des conditions qui sont extrêmement difficiles. Et donc, comme elle disait, ils sont régulièrement menacés par les groupes d'extrême droite de mort, puisqu'ils leur disent effectivement, de toute façon, vous les défenseurs des droits humains, en gros, on vous fera la peau, un de ces quatre. Voilà comment ça se passe. Et que. Donc, elle disait que c'était très difficile de parler, comme je vous disais au début, des droits humains, puisqu'il n'y avait pas de culture de la défense des droits humains dans la population ukrainienne, mais que malgré tout, alors par rapport à leurs actions aussi, par rapport à leurs actions qu'on appelle l'éducation aux droits humains, qu'ils font à travers les réseaux sociaux, ils ont appris, il y a l'année dernière, que le ministère de l'éducation nationale, enfin l'équivalent ukrainien, avait décidé de mettre l'éducation aux droits humains dans les programmes scolaires. Donc ça devrait démarrer à la prochaine rentrée, disait-elle, et ils ont été les premiers surpris, mais dans le bon sens, très heureusement surpris, que le ministère de l'Éducation introduise les notions d'éducation aux droits humains dans les programmes scolaires. Alors bien sûr, ils vont surveiller de près ce que ces programmes vont comprendre au niveau de l'enseignement, mais elle disait bien effectivement que ça devait être quelque chose qui découlait aussi de l'action d'Amnesty Ukraine par rapport à ce qu'ils faisaient sur place. Et dernier point que je voulais dire par rapport à ce témoignage, c'est que là aussi, malgré les difficultés qu'ils ont énormes pour travailler pour la défense des droits humains là-bas, ils s'occupent aussi de défense d'autres pays. Ils travaillent beaucoup avec le Kyrgyzstan, qui est un état du Moyen-Orient, qui est un état où il y a une relative démocratie réelle et qui accueille des gens qui sont réfugiés des dictatures aux alentours, hein, parce que les anciens pays soviétiques sont principalement dans cette région-là des simili-dictatures. On pense à l'Ouzbékistan et autres. Donc ce pays-là accueille des réfugiés qui viennent des pays voisins et qui travaillent en collaboration avec Amnesty Ukraine. Et qu'elle travaille aussi, alors Amnesty Ukraine travaille aussi pour la défense de ce qui se passe en Turquie. Donc voilà, comme quoi c'est la quadrature du cercle. Et on ferme la boucle. Et en fait, là aussi, malgré les difficultés de travail pour eux, ils défendent les droits humains en Turquie. Voilà, tout ça pour vous dire que ce sont de très beaux combats. Ce sont de très beaux témoignages, je vous en ai donné deux autres tout à l'heure. Ce sont de très beaux témoignages et ça ne peut aller que dans le sens des encouragements pour lutter pour les droits humains, sachant que notre situation ici, et heureusement, elle est quand même beaucoup plus simple. Voilà, Ronan, vous voulez vous dire quelque chose?
Bon, je fais une
bonne nouvelle.
Ouais, une petite bonne nouvelle, papa, à l'Argentine. Le projet de loi visant à dépénaliser l'avortement, adopté le 14 juin par la Chambre des députés, est une avancée fondamentale pour les droits des femmes. La décision prise par la Chambre des députés est un premier pas vers la dépénalisation de l'avortement. Une nouvelle loi pourrait mettre fin au cercle vicieux qui ne laisse d'autre choix aux femmes ayant décidé d'avorter que de risquer leur vie, leur santé et leur liberté, puisque certaines ont été condamnées à des peines de prison. Considérer l'interruption légale de grossesse comme un crime n'a aucun fondement en droit international. Avec le dispositif législatif actuel, l'avortement est en effet illégal, sauf en deux circonstances, risque pour la vie ou la santé de la femme ou viol. Le nouveau projet de loi propose de dépénaliser totalement l'avortement jusqu'à 14 semaines de grossesse. Avec cette décision, l'Argentine fait un pas immense en matière de défense des droits des femmes et des jeunes filles. Le pays adresse aussi un message fort au reste du continent où les lois restrictives sur l'accès à des avortements sûrs et légaux causent mort et souffrance pour des millions de femmes et de jeunes filles. L'Argentine pourrait se retrouver aux côtés de l'Uruguay ou de la ville de Mexico où la mortalité maternelle liée à l'avortement a baissé en partie grâce à la dépénalisation totale.
Ah donc oui, c'est, ça c'est un gros progrès pour l'Amérique du Sud.
Ouais, c'est un gros progrès, mais en sachant que ça doit passer à la Chambre du Sénat.
C'est un premier pas.
Voilà, c'est un premier pas, mais c'est comme une bonne avancée.
C'est une grande avancée, bien sûr.
Ouais. Donc je trouvais important d'en parler ce soir.
Tout à fait. Bon, juste quelques mots, et je vais être très bref là, sur les deux autres témoignages donc à l'Assemblée Générale d'Amnesty France dimanche matin à Grenoble. Donc le suivant, c'était Souleymane Sow. Souleymane Sow, c'est le président d'Amnesty Guinée. Alors c'est quelqu'un qui est très très dynamique et très très rigolo dans son intervention, vous ne l'avez pas entendu. On va vous passer quelques secondes tout à l'heure de son intervention, pas tout de suite, hein, non, tout à l'heure. Donc il a précisé qu'il avait fait ses études en France, à Rennes, et que c'est là qu'il a découvert en fait Amnesty International.
Il est devenu, très belle ville.
Il est devenu militant d'Amnesty Rennes, avant de regagner à la fin de ses études la Guinée. Donc il est retourné en Guinée en 2011-2012. Et il a contacté à ce moment-là le secrétariat international à Londres d'Amnesty pour créer une section en Guinée. Dans un premier temps, le secrétariat international avait l'air un peu sceptique, en disant on n'a pas de section là-bas, c'est pas prévu, enfin, etc. Alors lui, ce qu'il a fait, c'est que là aussi, il s'est servi des réseaux sociaux. Et il a commencé à passer des messages d'Amnesty sur les réseaux sociaux, et il s'est rendu compte qu'au bout de quelques mois, il y avait plus de 500 personnes qui l'avaient rejoint sur les réseaux sociaux en parlant d'Amnesty et des droits humains. Donc à ce moment-là, Amnesty Londres a dit que c'était peut-être envisageable de créer une section, ce qui est le cas maintenant. Donc ils sont 2000 ou 2500, je ne sais plus, gens qui suivent la section en Guinée. Ils ont créé des groupes, enfin, etc. Enfin, ils ont fait quelque chose qui ressemble d'assez près à ce qui se passe ici, avec des moyens bien évidemment plus limités, mais bon, voilà. Et là aussi, il a insisté aussi lourdement, comme on disait en Ukraine ou en Turquie, sur l'importance de Facebook et compagnie pour faire passer les messages. Leur gros travail depuis qu'ils ont créé la section, ça a été pour faire abolir la peine de mort. Et ils y sont arrivés. Et c'est pour ça qu'on va vous passer le petit enregistrement. Il a expliqué qu'en fait, ils avaient fait un lobbying auprès de pendant plus de 6 mois auprès des ministres et de tous les députés guinéens pour faire abolir la peine de mort, puisque le président actuel avait un peu ça dans les cartons, mais dans ses idées, mais ça avançait pas beaucoup. Et qu'à la suite de ce lobbying, effectivement, l'année dernière, la Guinée a officiellement aboli la peine de mort. Donc vous allez l'écouter. Alors prêtez l'oreille, parce que l'enregistrement au niveau du son n'est pas de qualité terrible. Ça a été enregistré en direct à l'Assemblée Générale dimanche matin.
Et nous, on partait le voir tous les jours dans son bureau. Mais en fait, la peine de mort, ta position, c'est quoi? Et quand il disait non, la peine de mort, on ne veut pas abolir, après on lui disait, le chef d'État veut abolir la peine de mort. Vous êtes là pour mettre en place le projet du président de la République, donc vous êtes en contradiction avec le président. Évidemment, comme le pays, tout le monde veut être ministre, donc il ne veut pas se fâcher. Personne ne veut se fâcher avec le chef, et donc évidemment, il faut faire profil bas. Et on a été reçu par le président de la République. On lui a réitéré nos demandes avec toutes nos recommandations. Là, je parle en particulier de la peine de mort, mais il y avait aussi la question de la torture, parce que on a réussi aussi à criminaliser la torture et à reprendre exactement la définition internationale dans le code pénal guinéen. Et les députés aussi, on a fait la même chose. Donc, en Conseil des ministres, le texte est passé, il est arrivé à l'Assemblée. On a fait un lobby auprès de tous les députés. Donc, c'était des travaux des fois jusqu'à 22h, 23h, dans les QG des partis politiques, dans leurs réunions hebdomadaires. Mais vraiment, 6 mois, c'était non-stop, à tous les niveaux. Toutes les personnes qu'on savait qui avaient une influence, on a essayé de les rencontrer, que ce soit les conseillers, les institutions onusiennes ou l'Union européenne. On est allé les voir pour que chacun pousse de son côté. Et finalement, le 5 juillet 2016, donc le vote à l'Assemblée nationale, ils ont retiré la peine de mort dans le code pénal guinéen.
Donc voilà, c'était un petit extrait de son témoignage. De Souleymane Sow, qui est donc le président d'Amnesty Guinée. Et donc ils sont en train de faire un autre travail de lobbying. Ça montre bien ce qu'on peut obtenir quand on fait de pression auprès des élus, des parlementaires, etc., pour faire avancer les choses. Bon, on ne réussit pas toujours aussi bien, mais eux, ils ont particulièrement bien réussi. Ils font du lobbying en ce moment pour faire aussi revoir le code civil guinéen, entre autres par rapport à l'égalité entre les hommes et les femmes, enfin, etc. Ils essaient de faire avancer les choses, parce qu'il y a encore beaucoup de travail à ce niveau-là. Et comme il disait, ils travaillent pour l'abolition définitive de la torture, enfin, que la torture soit considérée comme un délit, y compris la torture faite par les officiels, ce qui n'est pas encore le cas à l'heure actuelle. Et enfin, pour conclure son intervention, il a dit qu'il travaillait beaucoup avec les autres sections africaines, celles de Côte d'Ivoire, du Sénégal et de Burkina Faso. Et c'était principalement ça leur interaction. Et petit point de détail quand même, la section, mais qui est important à savoir, la section de Guinée, qui n'a quasiment pas de fonds propres en elle-même, parce qu'évidemment la situation du pays n'est pas du tout comparable à la nôtre, est financée à quasiment 100% par Amnesty International France, Donc il a remercié effectivement la section française de lui permettre d'exister en tant que section. Et ça, c'est quelque chose d'important aussi. Les sections qui ont les moyens financent les sections qui en ont moins. Voilà. Donc voilà, le dernier témoignage, c'était quelqu'un dont on vous a beaucoup parlé aussi, qui est Martine Landry, qui est la personne qui donc passait en justice. Là, son procès a eu lieu enfin le mois de juin, il n'y a pas très longtemps, j'ai plus la date en tête. Mais enfin, bon.
On lui a dédié une émission.
C'est ça, oui, on lui a dédié une émission. Mm-hmm. Et Martine a témoigné, ça a été très, très, très drôle et très, très, très tonique aussi. Elle a simplement dit que, bien sûr, bon, bah, normalement, elle va bénéficier d'une relaxe, puisque le procureur de la République a demandé lui-même, enfin, la procureure de la République a demandé pour elle la relaxe, faute de preuves. Voilà, mais elle a longuement parlé, Martine, de l'abandon du délit de solidarité, ce qui ne va pas être le cas avec la loi Asile Immigration qui est toujours en cours de vote chez nos parlementaires, qui va revenir du Sénat prochainement, mais on n'a pas de bonnes nouvelles pour l'instant, ça ne va pas s'arranger. Et elle a dit effectivement que le délit de solidarité, comme on est tous persuadés, était absolument inique et qu'il fallait effectivement que ça disparaisse dans les meilleurs délais. Donc elle a surtout intervenu sur ce plan-là. Voilà, ça c'était les quatre témoignages qu'on a eus à l'AG dont je voulais vous parler. Et puis je pense que maintenant il est largement temps d'écouter quelques notes de musique.
Bonsoir messieurs,
bonsoir mesdames,
check les enfants,
salut les vieux, bonsoir aux rires,
bonsoir aux larmes,
aux solitaires,
aux amoureux, à tous ceux qui sont en silence, tous ceux qui crient à qui mieux mieux,
qui trouvent des huettes la danse, aux autres qui tournent le pardon.
Bonsoir Evelyne, Lisa, Laurence, Jean-Michel, Patrick et Clémence, je ne vais pas tous vous citer, j'aurais trop peur d'en oublier.
Bonsoir à l'âme scotché au bar qui se noie et fuit la pression d'une maison où les rires d'enfants ne couvrent plus la télé.
Bonsoir aux vivants et aux morts,
à tous ceux qui hantent nos mémoires, qui sont partis sans crier gare et nous laissent seuls dans la bagarre.
À tous ceux qui ont fière allure, tous ceux qui roulent en grosse voiture,
qui n'attendent pas la permission,
qui ne demandent jamais pardon. Alors voilà, c'est ça qu'on voulait mettre dans notre chanson. Des mots futiles, des mots banals, des rimes de rien, de la mitraille. Alors voilà, c'est ça qui nous oppresse, qui nous fait mal, mots étranglés par la morale. Alors voilà.
Bonsoir à ceux qui ont la flamme, qui nous raniment à petit feu,
à ceux qui respectent les dames, sans masochisme en tout en deux,
à qui retient le portail lourd,
sans rien demander en retour,
aux passants qui lèvent les yeux,
salut d'un sourire chaleureux.
Bonsoir aux hommes bienveillants, à la main sûre, au regard franc,
aux poètes, aux gueux, aux croyants,
à ceux qui gardent une âme d'enfant,
aux fous qui courent après le temps, aux vieux qui se traînent en se lamentant,
à l'inconnu qui raccompagne le bois sans soif sorti du bagne.
Bonsoir à tous les étrangers,
les immigrés, les sans-papiers,
tous les écorchés pourchassés,
aux condamnés, aux femmes violées, aux hommes qui pointent en préfecture
le regard vide d'une vie dure, celui qui pleure en rétention
avant son retour en avion. Alors voilà, c'est ça qu'on voulait mettre dans notre chanson. Des mots futiles, des mots banals, des rimes de rien, de la mitraille. Alors voilà, c'est ça qui nous oppresse, qui nous fait mal, mots étranglés par la morale.
Dealers de crédit,
aux marchands de rêve et de nuit,
bonsoir aux jeunes décérébrés,
stars de télé-réalité,
à celui qui attend le million en grattant tickets et cartons,
celui qui attend son émission de nature, pêche et tradition.
Bonsoir à la correspondante qui appelle du bout de la terre et veut savoir en dilettante si vous êtes un propriétaire.
Bonsoir au trader innocent qui dans un regain d'insomnie clique et reclique sur sa souris pour faire fructifier de l'argent.
Bonsoir à la consommation
et à la mondialisation,
à l'acquisition des actions,
compensation,
gestion de fonds,
aux transactions,
imposition,
répartition,
rétrocession à l'extorsion,
malversation,
condamnation, réélection. Alors voilà, c'est ça qu'on voulait mettre dans notre chanson. Des mots futiles, des mots banals, des rimes de rien, de la mitraille. Alors voilà, c'est ça qui nous oppresse, qui...
qui nous fait mal mourir.
Alors voilà.
Et c'est Mida qui avait pris la suite. Donc de retour sur l'antenne, c'est Amnesty International Évreux. Et donc, on vient d'entendre un groupe qui nous a accompagnés samedi soir pendant la soirée un peu festive qu'on a fait à l'Assemblée Générale à Grenoble. Un groupe qui s'appelle Misère et Cordes.
Bon, voilà. Là, vous allez là-bas pour vous amuser ?
Ben aussi, ça n'empêche pas. On va là-bas pour travailler, pour s'informer, pour écouter des gens passionnants, mais aussi pour s'amuser un petit peu.
Heureusement, autrement la vie serait trop triste.
Je crois que c'était Françoise qui avait quelque chose à vous dire.
Oui, alors moi, je vais vous parler de l'asile, un sujet dont on parle beaucoup en ce moment. Les chefs d'État de l'Union européenne se réunissent cette semaine sur fond d'une énième crise de l'accueil des réfugiés. Pour sortir de l'impasse, la France doit promouvoir un mécanisme de partage de l'accueil des demandeurs d'asile de manière juste et équitable. Dublin est le mot le plus redouté par tous les demandeurs d'asile en Europe. Ce règlement, conclu à Dublin il y a 30 ans, vise à déterminer l'État responsable au sein de l'Union européenne pour accueillir des demandeurs d'asile. En réalité, elle déchire les familles, retarde l'obtention de l'asile et, en conséquence, la bonne intégration des réfugiés dans ces sociétés. De plus, elle encourage les États à se rejeter la responsabilité des demandeurs d'asile au lieu de les inciter à coopérer. En effet, l'actualité récente liée à l'Aquarius montre à quel point il est urgent de trouver une réponse européenne à la hauteur de ces enjeux. Les citoyens européens et les personnes cherchant un refuge en Europe méritent mieux que ce statu quo. La France a un rôle clé à jouer pour impulser une fois pour toutes un système dur et durable et équitable. Nous appelons les dirigeants français à promouvoir, lors du Conseil européen cette fin de semaine, un mécanisme de partage de responsabilités pour accueillir des demandeurs d'asile. Ce mécanisme devrait s'appuyer sur ces quatre recommandations. Arrêter de renvoyer les demandeurs d'asile vers le premier pays européen dans lequel ils sont arrivés. Mettre en place un système pour répartir des demandeurs d'asile dans l'Union européenne qui prend en compte les connaissances linguistiques ou d'autres éléments individuels démontrant des liens familiaux, culturels ou sociaux. Permettre aux familles de vivre ensemble en renforçant la réglementation relative au regroupement familial. Supprimer les sanctions à l'encontre des demandeurs d'asile s'ils décident de se déplacer vers un autre État membre. La sous-traitance à l'étranger, c'est une non-réponse. Nous sommes particulièrement inquiets des diverses propositions qui sont discutées en ce moment en préparation de cette réunion. En particulier, les zones de débarquement situées dans des pays hors Europe font planer un danger pour le respect des droits des personnes réfugiées ou migrantes, tels que le refoulement et la détention. De plus, ces zones ne régleront en rien la question de solidarité européenne pour accueillir des demandeurs d'asile en Europe. Nous rappelons que cette crise est due aux politiques européennes et les réponses se trouvent au sein de l'UE et non pas à l'extérieur de celle-ci. Nous notons aussi le danger des centres fermés. Le président Macron a proposé avec son homologue espagnol ce week-end de créer des centres fermés sur le territoire européen pour distinguer les personnes ayant besoin de la protection des personnes qui auraient migré pour d'autres raisons. Au-delà du fait que le recours systématique à la détention ne peut en aucun cas être une solution, il y a également de forts risques que ces centres pourraient conduire à un traitement injuste, sommaire et superficiel des personnes. Il est urgent de mettre en place un nouveau système d'asile fondé sur l'équité, l'efficacité et la compassion. En s'appuyant sur les principes fondateurs de l'UE, de respect pour les droits humains et de solidarité entre les États membres, cette génération de leaders européens doit trouver une solution durable à l'une des questions les plus urgentes de notre temps. Et je passe la parole à Didier.
Oui, c'était pour compléter effectivement ce que vient de dire Françoise. Bon, là, encore une fois, la loi asile et immigration est en cours de vote au niveau du Parlement français. On n'est malheureusement pas optimiste sur le résultat, mais ce qui ne nous empêchera pas de continuer à lutter. Et donc, il y a une pétition sur le site. Alors, c'est l'information que je voulais vous donner. Bon, très rapidement, c'est une pétition qui est adressée à Monsieur Macron, qui reprend ce que vient de vous dire Françoise, hein, pour faire changer la politique de l'Union européenne vis-à-vis de l'accueil des réfugiés. Encore une fois, c'est important de savoir, il n'y a pas de crise des réfugiés, même s'ils sont très nombreux à l'heure actuelle, mais c'est parfaitement, entre guillemets, gérable. Simplement, il y a une crise de l'accueil des réfugiés, puisque les pays qui peuvent les accueillir se renvoient la balle et ne le font pas. C'est ça le fond du problème. C'est une pétition adressée à M. Macron, et qui est en ligne sur le site d'Amnesty. Alors bon, j'avais le texte sous les yeux, mais je vais peut-être pas vous le lire, ça prendrait trop de temps. Vous allez sur le site d'Amnesty, amnesty.fr, vous allez dans la rubrique pétition qui est sur la première page, et la première que vous allez trouver, c'est la pétition pour M. Macron, pour faire pression sur lui dans le cadre de cette réunion européenne qui va avoir lieu les 28 et 29, donc c'est dans deux jours. Donc la pétition, vous avez encore deux jours pour la signer. Voilà. Il y a déjà eu plusieurs milliers de signatures, voire on a dépassé largement les 10 000, je crois. Mais dépêchez-vous d'aller la signer, puisque malgré tout, plus il va en recevoir, enfin plus la présidence française va en recevoir, plus ça fera bouger les choses. Et je rappelle quand même qu'on a remis le 20 juin, enfin Amnesty France a remis à l'Élysée le 20 juin plusieurs dizaines de milliers de raisons pour lesquelles il faut accueillir les réfugiés. Vous les avez peut-être vus quand le bus d'Amnesty est venu en février dernier. On avait les documents, on les a présentés au public. Ils ont été remis à la présidence de la République. Donc ce sont les raisons pour lesquelles il faut accueillir dignement les réfugiés. Pour la petite histoire, la présidence, le secrétariat de l'Élysée a refusé de les recevoir pendant 5 heures.
Ah bon ?
Mercredi dernier, oui. Ils ne voulaient pas les recevoir, mais comme les gens d'Amnesty sont campés devant la porte de l'Élysée avec le bus... Donc, au bout de 5 heures, ils ont effectivement bien voulu recevoir la délégation et recevoir les cartons. Mais dans un premier temps, c'était non. Voilà. Donc, c'est révélateur aussi de ce que représentent les directives de l'État français par rapport au non-accueil des réfugiés. Donc, nous, on est têtus, on continue. Voilà.
Bah, je crois que c'est peut-être un coup de gueule. Parce que même si je fais bonne nouvelle.
Non, on a un coup de gueule. On a piqué un coup de gueule contre les autorités européennes. Vas-y, continue, Renaud.
Non, mais là, je reste en Europe, je vais en Hongrie. Parce que j'en avais parlé déjà dans l'émission que l'Hongrie, ça craignait un petit peu par rapport aux ONG. Là-bas, les ONG n'étaient pas bien vues. Donc, il y a une loi qui a été adoptée au Parlement. Donc, j'en parlais un petit peu. Le fait d'ériger en infraction le travail essentiel et légitime en faveur des droits humains est une attaque éhontée contre les personnes qui cherchent à fuir les persécutions et contre celles qui font un travail admirable pour les aider. Une série de propositions de loi punitives ont été adoptées par le Parlement hongrois, dont une qui rendra passible de poursuites pénales le travail des militants et des ONG en faveur des migrants. Le travail sans faille des organisations qui défendent les droits en Hongrie est vital. Aujourd'hui, plus que jamais, et nous en sommes déterminés à être de leur côté pour faire front. Le projet de loi adopté par le Parlement le 20 juin, par une majorité écrasante, écoutez bien, une majorité écrasante quand même, érige en infraction toute une série d'activités légales d'assistante aux demandeurs d'asile, aux réfugiés et aux migrants, toutes protégées au titre du droit international relatif aux droits humains et du droit de l'Union européenne. Les personnes et défenseurs des droits humains qui enfreignent cette loi risquent jusqu'à un an d'emprisonnement. Un autre projet de loi proposant un 7e amendement à la Constitution a également été adopté. Cet amendement met à mal les droits humains et l'état de droit en Hongrie, car il interdit la réinstallation de populations étrangères, restreint la possibilité pour la population de manifester pacifiquement, affaiblit l'indépendance de la justice et exige des autorités qu'elles protègent la culture chrétienne de l'Hongrie. Vous avez entendu, la culture chrétienne de l'Hongrie. Dans l'ensemble, ces changements apportés à la législation hongroise constituent une grave menace contre le droit de demande d'asile, le droit de circuler librement, la liberté de réunion et une expression, et le droit de ne pas subir de discrimination. Donc ça c'est mon coup de gueule, parce qu'il me semble que c'est l'extrême droite qui est au pouvoir.
Oui, enfin, c'est un gouvernement très très à droite. Bon, il faut quand même rappeler par rapport à ce que tu viens de dire, j'ai juste ça, que c'est une remise en cause quand même de la Déclaration universelle des droits de l'homme, sur laquelle nous on s'appuie. Et qui est bien mal mise à mal dans cette année où on va quand même fêter à la fin de l'année son 70e anniversaire. Et qu'on rappelle aussi que cette déclaration universelle, elle a été rédigée entre autres suite aux horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Et que décidément, les responsables politiques et les États ont la mémoire courte.
Oui, l'histoire bégaye manifestement.
Oui, c'est ça.
Et ce qui veut dire qu'en fin de compte, on risque un an d'emprisonnement si on défend en fin de compte les droits humains en Hongrie. Quoi.
Oui. Et en fait, ils sont en train je ne sais pas s'ils sont en train de préparer le texte ou si c'est passé en Hongrie, mais le simple fait de réfugier, c'est ce qu'ils prévoient. Le simple fait d'être réfugié en Hongrie deviendrait un délit. C'est-à-dire que le fait d'être un être humain, une catégorie d'être humain, deviendrait un délit. Là plus, aussi, ça rappelle des choses.
Et en plus, quand ils disent qu'ils protègent la culture chrétienne de Hongrie, c'est du gros...
Ah bah après, ils peuvent se réclamer de qui ils veulent au niveau religion, ça c'est leur affaire.
Oui, complètement, mais bon, ça...
Mais bon, enfin, ça prend un tournant qui
ça
est...
Ça mérite ses poils. Voilà,
ça prend un tournant qui, malheureusement, c'est pour ça qu'il faut rester vigilant et actif et qu'on vous demande de votre soutien de plus en plus. Il ne faut pas laisser les choses en l'état, c'est sûr.
Eh bien, moi, je vais vous demander un appel à l'action aussi. C'est concernant un enfant qui a 14 ans. Ça se passe au Mexique. José Adrián, 14 ans, d'origine maya, vit dans le village de Ixcan, dans l'état du Yucatan. Le 25 février 2016, vers 21h, José quitte l'école pour rentrer chez lui. Une bagarre de rue impliquant plusieurs garçons éclate. La police arrive, des personnes non identifiées jettent des pierres, endommageant la voiture de patrouille. José Adrián, passant par là, est arrêté et roué de coups. Selon le rapport de police, il a été arrêté pour vandalisme. Conduit au poste de police municipale de la ville voisine de Chemax, il a été menotté et suspendu pour le forcer à avouer qu'il avait endommagé la voiture de police. José Adrián a été libéré après que ses parents aient accepté de signer un document dans lequel il s'engageait à payer une amende et la réparation du véhicule. La famille a porté plainte devant la commission des droits humains de l'État du Yucatan. 2 ans après, les responsables n'ont toujours pas été poursuivis. En tant que membre, alors vous pouvez écrire en tant que sympathisant d'Amnesty International, demander de fournir à José Adrián et sa famille les réparations appropriées pour les atteintes aux droits humains dont il a été victime. Voilà, vous pouvez adresser cette demande au gouverneur de l'État du Yucatan et vous pouvez nous envoyer un mot si vous souhaitez faire cette action sur gmail.com.
Voilà. Et on vous renvoie l'action à faire avec la lettre toute
faite. Merci d'avance.
Juste une petite parenthèse, je vais prendre 10 secondes, mais ça me fait penser à ça. Dans les interventions de nos amis ukrainiens et puis guinéens, ils ont tous aussi insisté lourdement sur l'importance des actions urgentes. Voilà, en disant, ils ont cité plusieurs exemples, en disant une situation que nous, on avait dénoncée dans nos sections quelques jours avant, il y a eu une action urgente d'Amnesty de lancer, 2 jours après, la situation avait évolué. Donc ça veut bien dire effectivement...
Que ça marche.
Ça veut bien dire effectivement que les autorités sont très attentives à ce genre de choses et craignent que ça se sache. Et ils ont tous insisté là-dessus en disant surtout, faut les faire, c'est vraiment ce qui fait le plus bouger les choses. Voilà. On va écouter peut-être un petit peu de musique, on va changer un peu l'ordre du jour avec notre panne du début. On va écouter un peu de musique et puis après c'est Mina qui doit vous parler.
Oui.
Sur la noirceur du soleil, sur le sable des marées, sur le calme du sommeil, sur mon amour retrouvé. Le soleil se lève aussi, et plus forte est sa chaleur, plus la vie croit en la vie, plus s'efface la douleur. Pour ces semaines très noires, pour ces belles assassinées, pour retrouver la mémoire, pour ne jamais oublier. Il faut te lever aussi, il faut chasser le malheur. Tu sais que parfois la vie a connu d'autres couleurs. Et si l'espoir revenait, tu me croiras jamais. Dans le secret, dans l'amour fou de toutes tes forces, va jusqu'au bout. Et si l'espoir revenait, sur mes doutes et ma colère, sur les nations déchaînées, sur ta beauté au réveil, sur mon calme retrouvé. Le soleil se lève aussi, j'attendais cette lumière pour me sortir de la nuit, pour oublier cet enfer.
Pour voir ce sourire d'enfant pour ses cahiers déchirés. Pour enfin que les amants n'aient plus peur de s'enlacer.
Le soleil se lève aussi.
Le soleil se lève aussi.
Le soleil. Et c'est l'espoir. Revenez. Tu ne croiras jamais. Dans le secret, dans l'amour fou de toutes tes forces, va jusqu'au bout. Et si l'espoir revenait.
Alors, de retour sur l'antenne, nous venons d'entendre Bernel Lavillier et Jeanne Chéral. Le titre s'appelle L'espoir. C'est ça, Didier ?
C'est ça même.
Et c'est reparti avec la rubrique culturelle. Je sais que je vous avais manqué. Ça faisait longtemps. Alors, cet été, comme dirait Didier, moi, je vais vous conseiller un petit jeu intéressant qui permet de s'investir et de réfléchir, même si je sais que nos auditeurs réfléchissent beaucoup et sont très concernés. Parce qu'il se passe sur les droits humains dans tout le monde entier. On va se mettre dans la peau d'eux. Alors, je vais vous proposer un film, un roman graphique et un livre documentaire. Alors, Harry Folman, bien connu pour Valse avec Bachir, a sorti un roman graphique avec David Polanski sur le journal d'Anne Frank. Et on est vraiment dans la peau d'Anne Frank, tous ces... réflexion d'adolescente, voilà, dans la peau d'une juive persécutée.
Aux Pays-Bas.
Oui, aux Pays-Bas. Alors voilà, mon premier conseil de lecture pendant les vacances. Deuxième, un film qui va sortir et qui est soutenu par Amnesty International, c'est un dessin animé. Ça s'appelle Parvana, de Nora Tourné. Cette femme réaliste met en scène une petite Afghane de 11 ans qui se déguise en garçon pour aider sa famille à Kaboul sous le régime des talibans. Sans occulter la violence du quotidien, les abus du pouvoir et le dénuement, ce film d'animation pour petits et grands laisse toute sa place au merveilleux et à l'imaginaire. Une réussite. Sorti le 27 juin et on vous en reparlera à la rentrée, mais peut-être qu'on le diffusera...
C'est pas peut-être,
c'est sûr.
À l'automne, non ?
Il sera diffusé au mois d'octobre. On n'a pas encore les dates, on vous le redira à la rentrée, mais il sera diffusé.
Ce serait bien que ça soit vers le 20 novembre.
Oui, mais non, ça sera en octobre, c'est sûr. Aussi. Et ce sera en octobre et on vous redira la date, mais il y aura une soirée spéciale à Vinci avec ce film. Tout à fait.
Voilà. Et mon dernier conseil culturel, ça s'appelle Les bateaux ivres du journaliste Jean-Paul Marie, édité chez J.C. Lathèse. Petit résumé, il nous fait vivre l'odyssée des migrants venus d'Afghanistan, d'Irak ou d'Afrique en évitant tous les pièges du politiquement correct. Et on est vraiment dedans. Dès le début du livre, on est le migrant, on est le réfugié. Et on voit tout ce qu'il subit, tout ce qu'il peut penser. J'ai fini mon petit jeu, mes petits conseils de Dans la peau d'eux, en vous souhaitant une belle fin d'émission.
Et un bel été.
Un bel été.
Bah moi, je pense que après mon coup de gueule, je vais faire une petite bonne nouvelle parce que ça fait quand même.
C'est important de les bonnes nouvelles. Ça remonte le moral. Ouais.
Là, on part en Biélorussie. La Cour suprême du Biélorus a, dans une décision sans précédent, décidé de réexaminer les condamnations à mort d'Iar Erzankou et de Siamon Berzagdok et de suspendre leur exécution le temps que leur appel soit étudié. Il s'agit d'une décision extrêmement importante et sans précédent pour ce pays, qui est le seul de la région à continuer d'exécuter des condamnés depuis tant d'années. À notre connaissance, c'est la première fois que la Cour suprême de Biélorussie suspend une exécution. Depuis 1994, la Cour suprême biélorussienne a confirmé toutes les déclarations de culpabilité et condamnations à mort soumises à son réexamen, et le président Alexandre Loukachenko n'a accordé sa grâce qu'une seule fois. Nous, Nous avons fait campagne pour que leur condamnation soit commuée et que le président instaure un moratoire immédiat sur les exécutions en vue d'abolir la peine de mort. Bien que les autorités bélarusiennes ne cessent d'assurer qu'elles avancent vers l'instauration d'un moratoire sur la peine de mort, le Bélarus a jusqu'à présent montré un mépris flagrant pour la tendance mondiale et régionale en faveur de l'abolition. Donc comme c'est une bonne nouvelle, c'est une petite avancée, quoi. Ils ont...
Oui.
Mais bon, il y a encore du travail à faire là-bas.
Ah bah oui, il y a encore du travail à faire dans beaucoup de domaines, c'est sûr.
Tout à fait.
Et puis, on vous avait dit au début de l'émission qu'on avait une nouvelle personne qui était avec nous, Milika.
Et donc, oui, bonjour à tous.
Voilà, Milika va vous parler du Yémen, si je ne me trompe pas.
Oui, exactement. Une actualité au Yémen où des millions de vies sont en danger, malheureusement, et où on assiste à la mise en place d'une véritable stratégie pour entraver l'aide humanitaire. Donc la coalition menée par l'Arabie Saoudite restreint l'entrée au Yémen, qui est ravagée par la guerre. Elle restreint l'entrée de produits de première nécessité, nourriture, carburant et fournitures médicales notamment. Quant aux autorités houthies, de facto du pays, elles retardent ensuite leur distribution. La coalition menée par l'Arabie Saoudite impose des restrictions excessives à l'entrée de denrées essentielles et d'aide, tandis que les autorités houthies entravent la circulation de l'aide humanitaire dans le pays. Donc ces obstacles, renforcés par l'offensive militaire meurtrière que mène l'Arabie Saoudite contre la ville portuaire de Hodeida, aggravent la situation humanitaire déjà très difficile au Yémen et bafouent le droit international. Alors, ces contraintes ont des conséquences de plus en plus graves pour les civils. Des millions d'entre eux sont au bord de la famine et ont besoin d'une assistance humanitaire. On ne peut ignorer plus longtemps cette crise humanitaire provoquée par l'homme. Le monde doit cesser de détourner les regards, tandis que le Yémen suffoque peu à peu. Depuis 2015, la coalition n'a cessé de durcir son blocus naval contre les ports de Salef et Hodeida, sous contrôle houthi, et impose des restrictions sur les importations commerciales qui limitent l'accès des Yéménites aux denrées alimentaires. En effet, la coalition inspecte les navires à destination des ports yéménites de la mer Rouge, alors qu'ils ont déjà été contrôlés par le mécanisme de vérification et d'inspection des Nations Unies. Elle abuse clairement du régime d'inspection qui concerne le respect de l'embargo sur les armes, entravant par là même la livraison des denrées essentielles et d'aide humanitaire. Alors, les restrictions et les retards qui concernent le carburant et les fournitures médicales, ces restrictions ont contribué à l'effondrement du système de santé au Yémen. Elles se sont durcies après que des missiles houthis ont été tirés contre la capitale saoudienne Riyad, ce qui suggère qu'il pourrait s'agir d'une sanction collective contre la population civile yéménite susceptible de constituer un crime de guerre. En outre, les autorités houthies de facto entravent la livraison d'aide humanitaire à l'intérieur du Yémen, les travailleurs humanitaires dénonçant notamment les procédures bureaucratiques excessives, source de retards importants. Ils essayent également d'avoir leur mot à dire sur les bénéficiaires et les régions concernées, et exigent des pots de vin d'organismes humanitaires pour approuver les projets ou les déplacements du personnel. Sur fond d'un regain de violence, la semaine dernière, les forces yéménites, appuyées par la coalition que dirige l'Arabie Saoudite, ont lancé une offensive contre Hodeida. Couper cette voie d'approvisionnement ne ferait qu'aggraver l'une des pires crises humanitaires que connaît actuellement le monde. Alors, les alliés de l'Arabie Saoudite ne prennent toujours pas position. Le Conseil de sécurité de l'ONU ne veille toujours pas à ce que toutes les parties au conflit au Yémen autorisent l'accès humanitaire rapide et sans entrave des agents de l'ONU et des organisations humanitaires afin de fournir des denrées alimentaires, du carburant, des médicaments et des fournitures médicales. Tout ceci en direction des civils qui en ont besoin au Yémen. Il devient urgent de prendre des sanctions ciblées à ceux qui entravent la livraison d'assistance humanitaire et commettent d'autres violations du droit international humanitaire. La coalition que dirige l'Arabie Saoudite doit cesser de retarder les importations commerciales de biens de première nécessité dans les ports yéménites de la mer Rouge et autoriser la réouverture de l'aéroport de Sanaa aux vols commerciaux. Les États qui soutiennent la coalition, en particulier les États-Unis, le Royaume-Uni et la France n'ont toujours pas fait pression en ce sens.
C'est étonnant. Oui. C'est étonnant comme alors qu'on se précipite pour refuser, pour ne pas accueillir dignement les réfugiés, on ne se précipite pas du tout pour prendre des mesures humanitaires par rapport à la population yéménite qui subit ce martyr depuis des années et des années. On rappelle que la France est un des principaux fournisseurs
d'armes
en Arabie Saoudite.
Tout à fait. Donc quelque part...
Il y a une enquête aussi qui est toujours sur le site. Tout si vous voulez la signer, il y a une demande d'enquête qui est auprès des parlementaires pour qu'enfin on fasse une enquête sur les ventes d'armes à l'Arabie Saoudite.
On en a parlé dans une émission, c'est un mec coup de gueule.
Tout à fait, mais on le rappelle. Et après on s'étonnera que les Yéménites cherchent refuge pour avoir une vie décente et qu'ils frappent à notre porte. Et
on les refuse.
Et voilà. Enfin, on va arrêter parce que ça devient énervant, quoi, je veux dire, à force de répéter toujours les mêmes choses. Mais encore une fois, il faut rester mobilisé. Il faut rester mobilisé puisqu'il n'y a que cette façon-là pour faire bouger les choses. Et encore une fois, c'est ce qu'on nous dit et ce qu'on nous redit pendant les assemblées générales d'Amnesty, avec juste raison. Il y avait Françoise qui voulait vous parler des enfants aux États-Unis, mais qui va manquer de temps, ma pauvre Françoise.
Oui,
est-ce que
oui,
tu peux
oui,
nous
oui.
en dire un petit mot quand même, parce que c'est important.
C'est paru dans les médias. Vous avez vu dans les médias ces derniers jours, là, que des familles étaient séparées. Des familles de migrants, enfin, de réfugiés, étaient séparées une fois arrivées aux États-Unis dans différents centres. D'un côté les parents, de l'autre les enfants. Alors ça, c'est complètement inadmissible. Alors il y a quand même eu des réactions dans le pays, ce que j'ai vu aux infos, là. Et des enfants ont été rapprochés de leurs parents. Mais ça ne s'est pas fait dans tous les centres. Et on demande évidemment à ce que cette situation cesse, quoi, parce que c'est inadmissible de voir des enfants dans des situations pareilles.
Oui.
Voilà.
Et là aussi, on peut rappeler quand même que les textes internationaux, qui ont été signés aussi par les États-Unis, précise qu'il est interdit de mettre des enfants en prison. Mettre des enfants en prison, c'est quand même quelque chose de, quand on y réfléchit 10 secondes, de particulièrement inadmissible. Mais il ne faut pas se leurrer. Hein. En France, il arrive aussi dans les centres de rétention qui sont copies conformes des prisons, des gens qui sont expulsables puisqu'en situation irrégulière, aux yeux de la loi. Il y a également des enfants qui sont mis en prison, mais là, c'est avec leurs parents.
Ouais, parce que là, on peut pas dire c'est pire, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de durée d'être pire, mais c'est vrai qu'il a carrément s'est séparé des enfants. Quoi.
Oui, oui.
Et pour l'enfant... qui est séparé de ses parents, c'est...
On a vu les images à la télé, d'ailleurs, c'est vraiment...
Bah là aussi, ça rappelle un passé pas si lointain.
Oui, tout à fait, aussi, c'était dans les trains et tout.
Là aussi, les responsables politiques et autres, et les gens qui prennent ces décisions. Monsieur Trump, pour ne pas le nommer, par exemple, il est revenu en arrière, apparemment.
Oui,
parce qu'il y a sa femme qui a dû verser une larme, je crois,
oui,
donc il a eu pitié.
C'est ça, donc il a signé un décret pour interdire ce genre de décision sur le territoire des États-Unis.
Et le jour même, ils se sont retirés de l'ONU en disant que l'ONU, en fin de compte, c'était des menteurs.
C'est rigolo.
Ouais.
Bah, oui.
Et donc, il y a quelqu'un qui s'est précipité pour reprendre le siège, c'est ton ami Poutine.
C'est effectivement assez triste et particulièrement révoltant. Donc restez mobilisés, continuez à nous soutenir.
Venez signer
dimanche.
Dimanche.
On vous rappelle dimanche la foire aux livres donc sur l'espace Saint-Léger, à côté du local d'Amnesty. Notre foire aux livres de 9-10h jusqu'à 17h le soir. Et venez nous soutenir, venez acheter les bouquins, signer nos pétitions. Et c'est comme ça qu'on fait aussi avancer la défense des droits humains. Et donc voilà, c'est une dernière émission de la saison. On se retrouve...
Au mois de septembre.
Alors j'ai noté la date. On se retrouve le mardi 11 septembre à 19h en direct sur l'antenne de Principe Actif. On vous rappelle que les podcasts sont mis en ligne sur le site très vite après l'émission. Et vous allez dans la rubrique d'émission Amnesty International sur le site de Principe Actif et vous avez tous nos podcasts depuis des années et des années. N'hésitez pas à nous réécouter et à faire vos commentaires. On vous rappelle aussi le podcast de notre émission spéciale de mercredi dernier, la Journée mondiale des réfugiés, qui est lui par contre dans la rubrique Fréquence droits humains, puisque c'est comme ça que s'appelle notre nouvelle collaboration avec la radio Principe Actif. Donc n'hésitez pas à nous réécouter, à en parler autour de vous, à nous faire écouter, etc., etc., et parce que nous écouter, c'est aussi avoir envie d'agir.
Bel été.
Allez, on vous souhaite tous un bon été.
Bel été à tout le monde et rendez-vous au mois de septembre.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er.